15h sur Europe 1. Le flash avec vous, Émilie Dez. Bonjour Émilie.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous. La menace sur Israël est une menace vitale, assure François Bayrou, le Premier ministre, qui estime que la guerre entre l'Iran et Israël peut avoir des conséquences immenses partout dans le monde. Au moins 11 personnes ont été tuées la nuit dernière dans des frappes iraniennes sur plusieurs villes d'Israël. 24 au total depuis vendredi, depuis le début de l'offensive israélienne en Iran. Le ministre de la Défense israélien prévient que Téhéran paiera le prix de ces frappes sur les civils. Israël, qui assure avoir visé des centres de commandement des gardiens de la révolution en Iran, avoir ciblé aussi des centaines de sites militaires et nucléaires. Donald Trump appelle l'Iran et Israël à trouver un accord. Le président américain assure qu'il est possible que les États-Unis s'impliquent dans le conflit. Conflit qui est au cœur des discussions au G7 qui s'est ouvert hier soir. Les dirigeants réunis au Canada vont tenter d'envoyer un message commun. Les tensions géopolitiques qui se sont invitées jusqu'au salon du Bourget. Le gouvernement français a interdit l'accès aux stands israéliens qui exposaient des armes offensives. Ces armements offensifs ne devaient pas être présents, assure François Bayrou. Israël a expulsé en Jordanie les trois derniers passagers du bateau qui avait tenté de rejoindre Gaza la semaine dernière. Parmi eux, deux Français. Ils vont donc pouvoir regagner le territoire français dans les prochaines heures. Au total, 12 personnes avaient été arrêtées lundi dernier à 185 km des côtes de Gaza, à bord notamment l'eurodéputée insoumise Rima Hassan et la Suédoise Greta Thunberg. Un hommage national a été rendu ce matin aux deux pompiers morts la semaine dernière à Laon, dans l'Aisne. Ils avaient été ensevelis sous des décombres alors qu'ils intervenaient lors d'un incendie. La cérémonie s'est déroulée sur la place d'armes de la commune de La Fère en présence de Bruno Retailleau. Il a loué leur courage et leur civisme engagé. Les deux pompiers ont reçu la Légion d'honneur à titre posthume. C'est aujourd'hui que s'est ouvert le procès du chauffard qui a tué la gendarme Mélanie Lemay après un refus d'obtempérer. C'était en juillet 2020 à Port-Sainte-Marie dans le Lot-et-Garonne. Le suspect de 31 ans est jugé pour violence ayant entraîné la mort et pour conduite sans permis et sous l'emprise de cannabis et de cocaïne. Il encourt la réclusion criminelle à perpétuité. L'ex-secrétaire d'État à l'éducation prioritaire, Nathalie Elimas, a été condamnée à 10 mois de prison avec sursis, jugée pour harcèlement moral sur plusieurs collaborateurs. Nathalie Elimas est aujourd'hui conseillère régionale en Île-de-France. Elle a aussi écopé d'une peine d'inéligibilité de 3 ans, ainsi qu'une amende de 5 000 euros. Et puis coup d'envoi ce matin des épreuves du bac. Plus de 530 000 élèves de terminale ont planché pendant 4 heures sur la philosophie. Parmi les sujets, la vérité est-elle toujours convaincante, ou sommes-nous libres en toutes circonstances?
Europe 1.
Il est 15h03 sur Europe 1, au cœur de l'histoire, c'est maintenant.
Europe 1, 15h, 16h,
au cœur de l'histoire, Stéphane Bern.
Bonjour à toutes et à tous. Et comme chaque jour à 15h sur Europe 1, je vous propose un voyage au cœur de l'histoire. Et cet après-midi, je vous raconte le destin de Philippe Pétain, le maréchal de France d'une première guerre mondiale dont il est sorti auréolé, devenu le 16 juin 1940, il y a 85 ans, jour pour jour, le chef de l'État français, qui en s'octroyant les pleins pouvoirs et en collaborant avec l'ennemi, a déployé durant la Seconde Guerre mondiale le régime de Vichy, une politique nationaliste, autoritaire, rétrograde, xénophobe et antisémite, qui a terni à jamais l'histoire de notre pays. Comment le mythe du vainqueur de Verdun s'est-il construit? Pourquoi les pleins pouvoirs ont-ils été confiés à Pétain en 1940? Et le pétainisme est-il mort aujourd'hui? Avant d'en parler tout à l'heure avec mon invité, l'historien Jean-Yves Le Naour, découvrons d'abord le destin du maréchal Pétain, chef de l'État français.
Au cœur de l'histoire sur Europe 1, le récit.
Nous sommes à l'été 1944 et dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, il marque un tournant. Le 6 juin, le débarquement en Normandie permet aux Alliés d'ouvrir une tête de pont sur le continent. Le Troisième Reich, qui recule déjà face aux Russes à l'Est, doit composer avec un deuxième front à l'Ouest. Le 15 août, le débarquement en Provence en ouvre un troisième au Sud. À Vichy, c'est la panique. Depuis que les Allemands ont franchi la ligne de démarcation qui séparait jusqu'en 1942 la zone occupée de la zone libre, l'État français ne dirige plus grand-chose. Mais son chef, Philippe Pétain, qui en a pris la tête le 16 juin 1940, il y a 85 ans, donc jour pour jour, n'en démord pas. Son monde a beau s'effriter, il ne varie pas. À 88 ans, le maréchal a la ferme intention de rester à son poste jusqu'au bout. Mais les nazis ne l'entendent pas de cette oreille. Le 20 août 1944, des troupes allemandes entraînent le maréchal pour l'installer dans une petite ville au sud de Stuttgart, Sigmaringen. Là-bas, le château des Hohenzollern devient le dernier réduit d'une France à l'agonie, celle qui a choisi la collaboration avec le Troisième Reich. Un autre exilé célèbre, Louis-Ferdinand Céline, racontera plus tard cette ambiance crépusculaire dans l'un de ses romans « D'un château l'autre ». Officiellement, la forteresse est un territoire français, mais la température est glaciale et le ravitaillement difficile. Le Reich s'effondre, la région tremble sous les bombes alliées et les derniers collabos se traînent comme des âmes en peine. À Sigmaringen, Philippe Pétain se considère comme prisonnier. Protégé par un dernier cercle de fidèles, le vieil homme se réfugie dans un silence opiniâtre et laisse à d'autres le soin de jouer la comédie d'une autorité française qui n'est plus qu'une fiction. La fin de la guerre est proche, le maréchal le sait. Maintenant que la victoire alliée se profile, comment justifier ces 4 années de pouvoir ? Comment justifier le fait d'avoir engagé la France dans cette collaboration qu'il a lui-même annoncée ? Oui, le 30 octobre 1940, quelques jours après sa célèbre rencontre avec Adolf Hitler à Montoire, le maréchal déclarait cela à la radio. Écoutez.
C'est dans l'honneur et pour maintenir l'unité française, une unité de 10 siècles, dans le cadre d'une activité constructive du nouvel ordre européen, que j'entre aujourd'hui dans la voie de la collaboration. Cette collaboration doit être sincère. Elle doit être exclusive de toute pensée d'agression.
Vu de Berlin, cette collaboration n'est rien d'autre qu'une mise sous tutelle. Et le ministre de la propagande du Reich, Joseph Goebbels, ne s'est pas privé d'ironiser. La politique de Vichy, c'est la collaboration, oui, celle du cheval et du cavalier. Vu de France, c'est bien Philippe Pétain qui incarne la collaboration, comme il incarne le régime de Vichy. Depuis 4 ans, c'est lui qui porte l'idée que le redressement national passe par la collaboration. Alors que la défaite se profile, Philippe Pétain prépare sa défense, une défense qui tourne autour d'une seule idée, celle que le maréchal n'aura eu qu'une seule obsession toute sa vie, défendre la France.
Vous êtes bien sûr Europe 1 et avec Stéphane Bern au cœur de l'histoire. Et cet après-midi, vous l'avez compris, Stéphane Bern nous raconte le destin du maréchal Pétain, le chef de l'État français. A tout de suite sur Europe 1.
Au cœur de l'histoire sur Europe 1.
La 6e édition du prix littéraire Europe 1 GMF a récompensé Le Lit Clos de Sophie Broca, un livre sur la plus grande grève féministe du XXe siècle en Bretagne.
Dans cette grève, c'est ça que j'ai trouvé romanesque, c'est qu'en effet, ces 3000 femmes, elles vont réussir à se souder et ça leur a donné une énergie qui a ramené en permanence celles qui doutaient, celles qui étaient prêtes à céder. Et c'est cette force, cette union, cette solidarité qui fait qu'on gagne ou pas.
Le Lit Clos de Sophie Broca, lauréate 2025 du prix littéraire Europe 1 GMF, disponible dès maintenant en librairie.
Noroto.
On va faire 300 bornes avec ton ventilo branché sur l'allume-cigare ?
Mais non, t'inquiète, on va aller chez Noroto. L'entretien climatisation est à 64,95€.
64,95€ ? C'est pas vrai ?
Et si c'est vrai ? Chez Noroto, l'entretien climatisation sans limite de gaz est à partir de 64,95€ pour tous les véhicules avant 2013. Avec des prix comme ça, pas étonnant qu'on soit la marque préférée des Français. Étude Opinion Way mars 2024, tarif valable avec le gaz R134A.
Alors monsieur, bonne nouvelle, vous êtes bien éligible à l'aide pour rénover votre logement. Il me faut juste votre numéro fiscal pour l'activer.
Là, maintenant ?
Oui, non, mais c'est normal, hein, c'est une formalité.
Mais je...
Le problème, c'est que si on l'active pas aujourd'hui, vous pourrez plus bénéficier de cette aide.
Bon, écoutez, j'aime pas qu'on me presse, j'ai besoin d'un autre avis.
Un numéro fiscal, c'est confidentiel et ce n'est pas pour les escrocs. Avant de dire oui, demandez un autre avis. Contactez votre conseiller France Rénov sur france-rénov.gouv.fr. Le service public de la rénovation de l'habitat.
Leclerc, bonjour.
Bonjour. Vous connaissez le proverbe « Quand l'abricot français bien sucré arrive en rayon, on se régale à la maison » ?
Non.
Normal, je viens de l'inventer, mais c'est vrai.
Ça, je vous crois. Surtout que du 17 au 21 juin, les abricots français sont à 2,79€ le kilo. Et chaque semaine, profitez en plus de 10% de tickets Leclerc sur tous les fruits et légumes à activer sur votre appli Mon Leclerc.
Chez Leclerc, le goût du frais, ça se défend tous les jours. Catégorie 1, calibre 45-50 mm, modalité et magasin participant sur www.e.leclerc.
Europe 1, 15h-16h,
au cœur de l'histoire.
Au cœur de l'histoire du lundi au vendredi avec vous Stéphane Bernet. Vous nous racontez aujourd'hui sur Europe 1 le destin du maréchal Pétain, devenu au début de la Seconde Guerre mondiale, le 16 juin 1940, le chef de l'État français, portant l'idée, vous nous le disiez tout à l'heure, que le redressement national passe par la collaboration.
Si le nom de Philippe Pétain reste d'abord associé à l'histoire du XXe siècle, il ne faut pas oublier que le maréchal reste à bien des égards un homme du XIXe siècle. En 1900, il a déjà 44 ans. Son existence commence dans une petite ville du Pas-de-Calais, en 1856. Le jeune Philippe voit le jour dans une famille de cultivateurs pratiquants, très catholiques. Son enfance est assez triste. Sa mère meurt alors qu'il est très jeune. Sa belle-mère ne s'intéresse pas à lui. Le garçon grandit au rythme des souvenirs de guerre de son oncle, un vétéran qui a servi dans la Grande Armée au temps du Premier Empire. Mais le jeune Pétain se retrouve surtout aux premières loges pour assister à la fin du Second Empire en 1870. Marqué par la défaite contre la Prusse, Philippe Pétain choisit la voie des armes. Bon élève, cet excellent cavalier intègre Saint-Cyr de justesse en 1876, 403e admis sur 412. Il en sort à un rang honorable mais modeste, 229e sur 336. Sa carrière militaire ne s'ouvre donc pas sous les meilleurs auspices. Pendant que d'autres se couvrent de gloire dans les campagnes coloniales, Pétain s'ennuie ferme dans les Alpes-Maritimes d'abord, à Besançon ensuite. Diplômé de l'école de guerre, il est affecté à Marseille avant de rejoindre l'état-major du gouverneur de Paris. En 1900, Pétain se retrouve instructeur dans l'artillerie à l'école de tir de Chalon-sur-Marne, puis à l'école supérieure de guerre où le professeur Pétain se distingue une première fois. Tandis que la théorie dominante préconise l'attaque à outrance, lui privilégie la défense et la guerre de position. En 1914, l'officier s'apprête à prendre sa retraite au terme d'une carrière honorable mais sans éclat. Lorsque la guerre éclate, justement. Face à l'ennemi, Pétain se distingue d'abord du côté de Namur. Promu général de brigade en août 1914, il se signale encore après la Marne. Le 22 octobre, c'est comme général de division qu'il prend cette fois la tête du 33e corps d'armée qui enchaîne les actions d'éclat dans l'Artois en 1915. En février 1916, l'Allemagne lance le début d'un assaut qui va rester dans l'histoire, la bataille de Verdun. Dans ce grand massacre d'hommes, c'est à Pétain que le maréchal Joffre, chef d'état-major de l'armée de terre, pour quelques mois encore, confie le soin d'organiser la défense des Français. C'est lui qui parvient à mettre en place l'immense noria d'hommes, de vivres et de munitions qui empruntent la petite route qui va de Bar-le-Duc à Verdun, qu'on surnomme alors la voie sacrée. La France tient bon et pour l'opinion, Philippe Pétain y gagne une image flatteuse et exagérée, celle du vainqueur de Verdun. En réalité, Pétain n'a commandé que 2 mois sur ce front pour une bataille qui en a duré 10. L'année suivante est marquée par l'échec meurtrier de la stratégie du général Nivelle, le successeur de Joffre, qui privilégie une offensive à outrance au mépris des pertes. Après le chemin des dames, lorsque l'évidence montre que les choix de Nivelle n'ont servi à rien, l'armée française traverse une mauvaise passe. Les poilus sont épuisés et la désobéissance menace. Le 15 mai 1917, Nivelle est débarqué au profit du maréchal Pétain qui se lance alors dans une politique qu'on pourrait résumer par cette phrase « La mutinerie n'est pas tolérable, mais j'entends votre souffrance. » Les mutins sont jugés, souvent sévèrement, mais les exécutions restent rares, 49 seulement, pour 554 condamnations à mort. Dans le même temps, Pétain se démène pour améliorer le sort des poilus sur le plan matériel. À l'automne 1918, Pétain relance une série d'offensives limitées. Le partisan de la défense estime que le temps de l'attaque est venu, une attaque combinée. Pour lui, c'est en alliant la puissance de feu de l'artillerie, de la jeune aviation et des tanks que le front allemand finira par céder. La grande offensive qu'il prépare en Lorraine pour le 14 novembre 1918 n'aura pourtant jamais lieu. 3 jours plus tôt, l'Allemagne épuisée réclame un armistice. Georges Clemenceau, ministre de la guerre et président du Conseil, accepte contre l'avis de Pétain, qui estime qu'il aurait d'abord fallu franchir le Rhin. À l'heure de la paix, le général Pétain est une légende vivante, ou presque. Le 19 novembre, le président Poincaré lui accorde la plus haute distinction militaire, un titre de maréchal de France. Philippe Pétain reste officiellement dans l'active jusqu'en 1926, l'année de sa dernière campagne au Maroc contre les insurgés du RIF. Ensuite, les charges et les honneurs s'enchaînent. L'Académie française d'abord en 1931, puis le ministère de la guerre en 1934 et le Conseil supérieur de la guerre enfin, où Pétain renoue avec son obsession de la défense. Dans une France qui s'est jurée de ne plus jamais connaître les souffrances de la Grande Guerre, l'idée lui permet de peaufiner son image d'officier soucieux de la vie des soldats. Enfin, c'est à Madrid qu'on le retrouve en 1939, quand Édouard Daladier, le chef du gouvernement, le nomme ambassadeur de France auprès du nouveau régime, celui du général Franco. L'Espagne aurait pu n'être qu'une retraite dorée pour le vieil officier. Mais la guerre va venir tout changer. Au printemps 1940, le sort de la France, qui vient de s'effondrer en quelques semaines face aux armées du Troisième Reich, bascule, et l'existence du maréchal également. Après une vie pour la gloire, place à une vie pour la honte.
Et nous allons justement le découvrir dans la suite de votre récit, Stéphane Bern. Vous nous racontez le destin du maréchal Pétain, le chef de l'État français, qui s'apprête à devenir. A tout de suite pour la suite de votre récit, juste après un peu de musique avec ce classique de Véronique Sanson, sorti en 1976. Véronique Sanson, voici Vancouver sur Europe 1.
Allez, devez l'envie, ça je l'ai bien connu. Je mène ma vie comme un radeau perdu.
Pour vous cet après-midi sur Europe 1, c'était Vancouver, extrait de son quatrième album du même titre qui est sorti le 27 février 1976. 15h20, merci d'avoir choisi Europe 1, votre radio préférée. Demain, n'oubliez pas, c'est le retour de Culture Média de 9h30 à 11h, hein, comme du lundi au vendredi, présenté par Thomas Hill, accompagné de tous ses chroniqueurs. Et demain, à l'occasion de la semaine de la grande famille Europe 1, oui, c'est cette semaine, et bien Laurence Ferrari sera l'invité de Thomas Hill dans Culture Média, l'occasion de revenir sur les moments marquants de la saison, comme l'élection du pape Léon XIV que Laurence Ferrari nous a fait vivre en direct sur CNews et ici sur Europe 1. Raphaël Quenard aussi sera l'invité de Thomas Hill pour présenter son livre Clamsé à Tataouine. C'est le programme demain dans Culture Média de 9h30 à 11h du lundi au vendredi sur Europe 1.
Europe 1.
15h, 16h, au cœur de l'histoire.
Et pour le moment sur Europe 1, Stéphane Bern, on plonge avec vous sur Europe 1 au cœur de l'histoire du maréchal Pétain qui ressort de la Première Guerre mondiale couvert de gloire et d'honneur. Mais au printemps 1940, le sort de la France bascule et l'existence du maréchal également. Vous nous le disiez, après une vie pour la gloire, place à une vie pour la honte.
Après des mois de ce qu'on a appelé la drôle de guerre, l'Allemagne passe en effet à l'attaque le 10 mai 1940. Le 17, la situation est déjà compromise quand le président du Conseil, Paul Reynaud, rappelle d'urgence le maréchal Pétain. Mais la débâcle a commencé. Le gouvernement se replie sur Bordeaux et les événements s'enchaînent. Le 16 juin 1940, il y a 85 ans jour pour jour, Paul Reynaud démissionne pour céder la place au maréchal sur décision du président Albert Lebrun. Le lendemain, le nouveau président du Conseil annonce son intention de demander un armistice. Le 22, la France accepte les conditions du régime hitlérien à Rotonde, là où l'Allemagne avait signé l'armistice de 1918. Le 29, le gouvernement s'installe à Vichy. Pourquoi Vichy ? Parce que Lyon, c'est la ville d'Édouard Herriot, classée à gauche, et que Marseille est trop excentrée. Le repli est censé être temporaire, d'ailleurs, mais c'est pourtant là que la Troisième République s'éteint pour céder la place à un nouveau régime, l'État français. Et aussi, il faut le rappeler, c'est parce qu'à Vichy, il y avait tous les hôtels pour accueillir la foule des membres de l'État français. Le 10 juillet, les parlementaires qui ont pu arriver jusque-là votent les pleins pouvoirs au maréchal avec une mission, promulguer une nouvelle constitution. Celle-ci ne sera jamais écrite. C'est donc un état provisoire, l'état français, qui voit le jour les 10 et 11 juillet 1940, avec quatre actes constitutionnels. Le début dit tout. Nous, Philippe Pétain, maréchal de France, déclarons assumer les fonctions de chef de l'état français. Ce « nous » de majesté qui fleure bon l'ancien régime n'est pas qu'une formule. La France est occupée par le Troisième Reich, oui. Elle est aussi coupée en deux par la ligne de démarcation. Mais en théorie, l'autorité de Pétain s'étend sur les deux zones. La zone occupée comme la zone libre. En pratique, l'ingérence allemande est constante, au nord comme au sud. Mais sur le papier, au moins, le maréchal concentre entre ses seules mains des pouvoirs que personne ne s'était vu attribuer depuis 1789. Il n'y a plus d'assemblée. La Chambre et le Sénat sont ajournés jusqu'à nouvel ordre. Le maréchal est à la fois chef des armées, chef de l'État, chef de gouvernement et ministre des Affaires étrangères. Pétain s'accorde aussi le droit de condamner n'importe quel fonctionnaire. La presse est sous contrôle. Les élections repoussées sine die. Les partis n'ont plus le droit de se réunir. Dans une formule restée tristement célèbre, le maréchal déclare alors « Je fais à la France le don de ma personne » pour atténuer son malheur. À en juger par l'étendue de son pouvoir, il est permis de se demander si Pétain ne fait pas plutôt le don de la France à sa personne. Quant à ceux qui comptaient sur l'âge du capitaine pour tirer les ficelles en coulisses, ils en sont pour leurs frais. Pétain est un homme âgé, certes, il a 84 ans quand il est nommé. Il entend mal, certes, il est fatigué, mais il reste vert. C'est bien lui qui engage la France sur la voie de la collaboration. C'est bien lui qui dirige et c'est bien lui que la propagande affiche partout. À la fin de l'été 40, ce qui ne devait être qu'une solution transitoire est un régime bien installé. Autour du maréchal, l'équipe est extrêmement resserrée. Pas plus de 5 ou 6 ministres. Un surtout, Pierre Laval, son successeur désigné. C'est à cette équipe réduite que revient le soin de déployer la promesse du nouveau régime, une promesse qui se résume en une formule, la révolution nationale. Ce programme, justement, parlons-en. L'idée maîtresse est simple. Au lendemain de la défaite, la République est accusée de tous les maux. Dans l'esprit du maréchal, la France a perdu parce que la France est amollie. L'esprit de jouissance l'a emporté sur l'esprit de sacrifice. On a revendiqué plus qu'on a servi, on a voulu épargner l'effort, on rencontre aujourd'hui le malheur. Le Front populaire de 1936 est particulièrement ciblé, et toutes les composantes de la gauche avec. Le maréchal se pose en père de la nation, sévère mais juste, il faut assainir et nettoyer. Alors, 3 mots sont choisis pour remplacer la vieille devise républicaine, fini liberté, égalité, fraternité. Désormais, c'est travail, famille, patrie. Le cœur du pouvoir à Vichy, c'est l'hôtel du Parc, là où le maréchal s'est installé dans la chambre 35. On peut l'apercevoir souvent, d'ailleurs. Tous les jours, vers midi et demi, Pétain fait une longue promenade dans les jardins pour s'ouvrir l'appétit. Il déjeune ensuite dans l'un des salons du restaurant Chanteclerc avec une quinzaine de convives, dont quelques personnalités de passage. Le soir, on dîne en comité plus restreint. Le maréchal a conservé un excellent coup de fourchette et ne déteste pas le vin rouge. Mais derrière cette bonhomie de façade, derrière cette image de vieux chef débonnaire, c'est bien là que le chef de l'État français déploie une politique nationaliste, autoritaire, rétrograde, xénophobe et antisémite, contrôlée par des élites et des notables réactionnaires. Et derrière la personne du maréchal, derrière le nom, reste associé au régime qu'il a organisé autour de lui. Philippe Pétain, l'homme de Vichy, c'est bien cette politique qui va être jugée 5 ans plus tard à Paris.
Et nous allons le voir dans un instant avec vous, Stéphane Bern. Vous nous racontez la suite du destin du maréchal Pétain, le chef de l'État français. C'est au cœur de l'histoire de 15h à 16h sur Europe 1.
Bonjour, c'est Pascal Pro. Je suis heureux de vous retrouver sur Europe 1.
11h, 13h, Pascal Pro et vous.
Écoutez Europe 1, c'est être libre.
Oui, bonjour Pascal.
Ils nous ont déclaré la guerre. C'est insupportable d'entendre un discours pareil où on se voile la face et on ne fait rien.
C'est un plaisir de vous avoir et surtout un plaisir de vous écouter.
Europe 1, la radio libre.
Pascal Pro et vous.
Je vous donne rendez-vous demain de 11h à 13h sur Europe 1. Je compte sur vous.
Chez Cellier des Dauphins, le rosé prestige, c'est avant tout le savoir-faire de vignerons producteurs engagés sur le territoire du sud de la vallée du Rhône.
Les raisins de notre rosé sont cueillis à l'aube pour préserver toute la fraîcheur des arômes. Avec ses notes florales et de petits fruits rouges, le rosé prestige AOC Côte du Rhône accompagnera parfaitement vos apéritifs et repas d'été.
Avec Cellier des Dauphins, nos vignerons vous invitent à des moments de saveur partagés. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool.
Carrefour. Chez Carrefour, pour 2 boîtes de glace nuit achetées, la 3e est offerte. Et c'est valable sur toutes les boîtes de glace nuit. Alors rendez-vous dès demain et jusqu'au 23 juin chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive.
Carrefour, on a tous droit au meilleur. Au rayon surgelé, selon disponibilité en magasin, panachage possible, la remise s'applique sur le moins cher. Détails sur carrefour.fr. Pour votre santé, évitez de grignoter.
Former une personne de plus de 50 ans, c'est une blague.
Mais au contraire, pour moi, c'est très sérieux. Quand j'ai formé Marc, 59 ans, à la soudure laser, j'ai su que je pourrais faire confiance à son expérience. En plus, maintenant, c'est lui qui forme les nouveaux.
Comptons sur l'expérience des 50 ans et plus. Recrutement, formation, accompagnement. Rendez-vous sur emploi50plus.gouv.fr.
Ceci est un message du gouvernement. On peut penser que pour partir en vacances en famille avec une voiture neuve, on doit attendre des mois et des mois. Ou on peut choisir Dacia Jogger. Disponible immédiatement chez votre concessionnaire pour profiter des vacances d'été. En 5 ou 7 places, avec motorisation hybride ou GPL, vous n'avez plus que quelques jours pour profiter d'offres très avantageuses sur une sélection prête à partir.
Offre particulière jusqu'au 30 juin seulement, dans la limite des stocks disponibles dans le réseau Dacia participant. Pensez à covoiturer.
Bientôt 15h30 sur Europe 1 et aujourd'hui Stéphane Bern, vous nous entraînez au cœur de l'histoire du maréchal Pétain, le chef de l'État français.
Europe 1, le journal permanent.
Mais avant de découvrir la suite, retour dans le présent avec le journal permanent et le rappel de l'actualité de ce lundi 16 juin. C'est avec vous, Émilie Dez.
Israël a le droit de se défendre quand son existence est menacée. La fermeté de François Bayrou, qui considère que la menace iranienne sur Israël est immédiate et vitale. Au moins 11 personnes ont été tuées dans des frappes iraniennes sur plusieurs villes d'Israël la nuit dernière, 24 au total depuis vendredi. Les habitants de Téhéran paieront le prix de ces frappes sur les civils, prévient le ministre de la Défense israélien. Israël qui assure de son côté avoir ciblé des centaines de sites militaires et nucléaires. Un tiers des lanceurs de missiles sol-sol iraniens ont été détruits. L'escalade entre l'Iran et Israël est au cœur des discussions du G7 qui se tient au Canada. Bruno Retailleau a loué leur courage et leur civisme engagé. Maxime Prudhomme et Tanguy Mauzin, les deux pompiers morts la semaine dernière à Laon dans l'Aisne, ont reçu la Légion d'honneur à titre posthume. Un hommage national leur a été rendu ce matin. Les deux pompiers avaient été ensevelis sous des décombres alors qu'ils intervenaient lors d'un incendie. C'était en juillet 2020 à Port-Sainte-Marie dans le Lot-et-Garonne. La gendarme Mélanie Lemay était tuée par un chauffard après un refus d'obtempérer. Le suspect de 31 ans est jugé aujourd'hui pour violence ayant entraîné la mort et pour conduite sans permis et sous l'emprise de cannabis et de cocaïne. Il encourt la réclusion criminelle à perpétuité. À la veille de la fin du conclave sur les retraites, François Bayrou a proposé aux syndicats et au patronat l'idée d'une prime pour les salariés seniors qui décideraient de rester au travail. Une partie de leur retraite leur serait versée en plus de leur salaire. « Je suis persuadée que tout le monde peut y gagner », assure le Premier ministre qui se dit prêt à accorder quelques jours de plus aux partenaires sociaux pour qu'ils s'accordent. La vérité est-elle toujours convaincante ou encore sommes-nous libres en toutes circonstances? Ce sont quelques-uns des sujets de philosophie proposés ce matin aux candidats au bac. Plus de 530 000 élèves de terminale ont planché jusqu'à midi avec au choix deux sujets de dissertation ou un commentaire de texte. Et puis attention aux feux de forêt dans les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse. Ces deux départements du Sud-Est sont placés en vigilance orange. 9 feux sur 10 sont d'origine humaine et principalement liés à une imprudence.
Merci beaucoup Émilie Dez. On vous retrouve à 16h pour un nouveau point sur l'actualité sur Europe 1.
Europe 1, 15h, 16h,
au cœur de l'histoire.
Et Stéphane Bern, vous nous racontez cet après-midi sur Europe 1 le destin du maréchal Pétain, devenu le 16 juin 1940, il y a 85 ans, jour pour jour, le chef de l'État français qui, en s'octroyant les pleins pouvoirs et en collaborant avec l'ennemi a déployé durant la Seconde Guerre mondiale, vous nous le disiez, une politique nationaliste, autoritaire, rétrograde, xénophobe et antisémite, contrôlée par des élites et des notables réactionnaires. Mais le maréchal va devoir rendre des comptes. Sa politique menée depuis Vichy va être jugée 5 ans plus tard. À Paris.
Le procès de Philippe Pétain s'ouvre à l'été 1945, mais il n'aurait sans doute pas pu se tenir sans la décision du maréchal déchu en personne. Dans ses dernières semaines d'existence, le Troisième Reich finit par le laisser partir de Sigmaringen en Allemagne, où je vous le racontais au début de mon récit, Pétain se sentait déjà prisonnier, pour rejoindre la Suisse. La Confédération lui aurait probablement accordé l'asile politique. Mais en apprenant que son procès par contumace se prépare, le vieil homme choisit de se livrer le 26 avril 1945 et est emprisonné, cette fois pour de bon. Quelques semaines plus tard, le 23 juillet, le maréchal est tiré de sa cellule et transféré au palais de justice de Paris. Les chefs d'accusation sont graves. L'inculpé est poursuivi pour avoir attenté à la sûreté intérieure de l'État et pour avoir entretenu des intelligences avec l'ennemi, autrement dit, pour haute trahison. À 88 ans, le vieux maréchal risque sa tête. Lorsque le président de la haute cour l'invite à décliner ses noms, prénoms et qualités, sa réponse sonne pourtant fermement dans la petite salle du tribunal. Pétain Philippe, maréchal de France. Très vite, une triple ligne de défense se dessine. Sur la forme, Pétain estime que la haute cour ne représente pas le peuple français et n'a pas de compétence pour le juger. Sur le fond, le vieux maréchal souligne qu'on lui a confié le pouvoir et que ce pouvoir a été reconnu par tous les pays du monde. Il développe surtout une thèse qu'on entend encore aujourd'hui, celle du glaive et du bouclier. Cette formule, il l'avait d'ailleurs déjà utilisée en quittant Vichy. S'il est vrai que de Gaulle a tenu l'épée de la France, l'histoire n'oubliera pas que j'ai tenu le bouclier des Français. Pour Pétain, il ne s'agit donc pas d'opposer Vichy à Londres, la collaboration à la résistance et le général au maréchal. Ce que dit le maréchal, c'est que chacun a servi la France et que chacun a été l'allié objectif de l'autre. Une fois terminée sa prise de parole, le maréchal s'assied, pose son képi rouge à laurier d'or sur la petite table installée près de son fauteuil et laisse la parole à ses avocats. Il n'est évidemment pas question de résumer ici le déroulé d'un procès complexe, souvent technique et parfois fastidieux. On peut en revanche en résumer les grandes lignes. Jour après jour, l'accusation échoue à prouver que le maréchal a prémédité sa prise de pouvoir. Dans les premières semaines, le défilé des témoins sert plutôt sa cause. Daladier, qui a été chef du gouvernement du mois d'avril 38 à mars 40, estime ainsi que la signature de l'armistice était inévitable. Léon Blum, qui lui était président du Conseil, évoque bien ce qu'il appelle un abus de confiance morale, donc une trahison, mais pas un complot. La défense, elle, parvient à glisser que le mauvais génie de Vichy, ce n'est pas le maréchal, c'est un autre acteur, réfugié en Espagne, Pierre Laval, le successeur, le dauphin. Mais le 31 juillet 45, coup de théâtre, le général Franco finit par remettre Laval aux Français et cette ligne de défense commence à se fracturer. Laval, qui joue sa propre tête, brise le récit d'un maréchal éloigné des affaires comme il brise celui du double jeu, celui du glaive et du bouclier. La suite est connue. Le talent de ses avocats ne sauve pas le vieux maréchal. C'est en vain que maître Jacques Isorni brandit la figure du vainqueur héroïque de Verdun. C'est encore en vain que les autres avancent l'argument de l'âge ou défendent la thèse du moindre mal. Le 15 août 1945, Philippe Pétain est jugé coupable à 4 heures du matin. 6 siècles après un certain Gilles de Rais, le vieil homme devient le 12e maréchal de France condamné à mort. Il y perd d'ailleurs ce titre. Officiellement, Philippe Pétain n'est plus maréchal. Le désormais ex-maréchal n'est plus qu'un cadavre en sursis. Mais le général de Gaulle exerce aussitôt son droit de grâce et commue la peine de mort en détention à perpétuité. Le général ne fait d'ailleurs que suivre la recommandation de la haute cour qui avait émis le vœu que l'accusé soit épargné en raison de son grand âge. Le procès Pétain a d'une certaine manière été celui de l'armistice et d'une trahison personnelle. Mais il est passé à côté d'une question que la France peine encore à affronter, celle de l'antisémitisme du régime. Pendant le procès, la question est évoquée, mais elle reste presque subsidiaire, comme si le maréchal n'avait pas signé les textes sur le statut des Juifs, comme si ceux-ci n'avaient pas été bannis de la fonction publique, comme si les instituteurs juifs n'avaient pas été chassés de leurs écoles à la veille des vacances de Noël 1940, comme si le commissariat aux questions juives n'avait pas vu le jour l'année suivante, comme si la police de Vichy n'avait pas livré des dizaines de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants aux nazis, comme si l'étoile jaune n'avait pas été imposée, comme si le régime n'avait pas devancé les ordres du Reich à plusieurs reprises, comme si des dizaines de milliers de commerçants, d'artisans et de chefs d'entreprise juifs ne s'étaient pas fait voler le fruit de leur travail. Comme si les sinistres convois vers les camps de la mort n'avaient rien à voir avec ce régime dont Philippe Pétain se veut pourtant le chef incontesté. Un chiffre suffira pourtant. Sur les 330 000 juifs français et étrangers qui vivaient en France en 1940, 76 000 ont été déportés, 1 sur 4. 2 500 seulement sont revenus des camps d'extermination.
Et restez bien avec nous sur Europe 1. Stéphane Bern nous racontera la suite et la fin du destin de Pétain, le maréchal qui ne l'est plus. Nous retrouverons ensuite notre invité au cœur de l'histoire, comme chaque après-midi, l'historien Jean-Yves Le Naour. A tout de suite sur Europe 1.
Au cœur de l'histoire sur Europe 1.
Noroto. 6 heures de route sans clim, l'enfer.
Heureusement que j'ai pensé aux boissons fraîches.
Bah vu la chaleur, elles vont pas tenir longtemps.
Mais si, avec ma glacière électrique 25 litres Noroto à 59,99€.
59,99€? J'y crois pas.
Si, si, la glacière électrique 25 litres Noroto est à 59,99€ avec branchement électrique en voiture ou à la maison. Avec des prix comme ça, pas étonnant qu'on soit la marque préférée des Français. Étude Opinionway mars 2024. Conditions en centre et sur noroto.fr.
Vous rêvez de vacances? Les chèques vacances de la NCV vous offrent un moment d'évasion alors que vos congés n'ont pas encore commencé.
Patience.
Voyage, hébergement, restauration, loisirs sportifs et culturels. Les chèques vacances de la NCV, c'est tout ça à la fois. Plus de 120 000 partenaires pour donner vie à vos envies. Rendez-vous vite sur le guide.ancv.com. L'évasion commence ici.
Avec Mondial Piscine, chez nous, il y a un endroit pas comme les autres. Un endroit où l'on joue, où l'on rit, où l'on profite des belles journées, où chaque moment devient un souvenir à partager. Un endroit où Mondial Piscine donne vie à nos rêves. Mondial Piscine, conçu pour durer, pensé pour partager. Rendez-vous sur le site Mondial Piscine pour trouver le professionnel le plus proche de chez vous.
Dans les années 60, la France construisait un avenir plus ouvert. Révolution musicale, conquête spatiale, émancipation des femmes. En 2025, Renault remet la liberté sur la route avec nouvelle Renault 4. Design emblématique, habitabilité légendaire, désormais 100% électrique et ultra connecté. Découvrez Renault 4 e-tech électrique, borne de recharge offerte. Portes ouvertes du 12 au 16 juin. Valeur borne 990€ hors taxe, hors installation pour forfait borne plus installation. Offre à particulier du 1er au 30 juin. Conditions Renault.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun.
Europe 1, 15h, 16h,
au cœur de l'histoire.
La suite sur Europe 1 avec vous Stéphane Bern, et vous retracez ce lundi 16 juin le destin du maréchal Pétain. Le maréchal qui ne l'est plus après sa condamnation à l'été 1945, où il a dû répondre des atrocités, notamment la question de l'antisémitisme qui est malgré tout restée, vous nous le disiez, presque subsidiaire lors du procès du régime de Vichy, dont il se voulait le chef incontesté.
Quand on a demandé au maréchal de s'expliquer, le vieil homme a eu cette formule au sujet de son rôle en 1940. On m'a demandé de venir et je suis venu. Dans l'ouvrage qu'il vient de lui consacrer, notre invité, l'historien Jean-Yves Le Naour, revient sur ces 4 années. Il est venu, il a fait l'armistice, supprimé la République, pratiqué une collaboration qui a placé la France dans la roue de l'Allemagne, traqué les Juifs et les résistants. Que son ambition ait été de protéger les Français, nul doute là-dessus. Mais dans la pratique, ce fut une toute autre histoire. Philippe Pétain est mort en détention à 95 ans sur l'île Dieu, et il y est aujourd'hui enterré. Mais cette histoire, son histoire, n'est pas finie. Certains l'avaient pressenti, dès 1945 d'ailleurs. Au lendemain du verdict, le 16 août, François Mauriac écrit dans le Figaro « Pour tous, quoi qu'il advienne, pour ses admirateurs, pour ses adversaires, il restera une figure tragique ». À mi-chemin de la trahison et du sacrifice. Avant de conclure, un procès comme celui-ci n'est jamais clos et ne finira jamais d'être plaidé. Bien sûr, l'histoire a tranché depuis longtemps. Quelques vieilles légendes ont fait long feu. On sait aujourd'hui, sans discussion possible, que le régime de Vichy n'a pas sauvé les Juifs. On sait aujourd'hui que la théorie du double jeu n'est qu'une fable, comme on sait que la thèse du glaive et du bouclier ne tient définitivement pas. Mais François Mauriac n'avait pas moins vu juste. 80 ans après le verdict, Philippe Pétain encombre encore l'histoire de France. Dans son livre, Jean-Yves Le Naour évoque, avec un humour qui n'exclut pas la gravité, cette figure qui confond l'homme de Verdun et l'homme de Vichy. L'ex-maréchal Pétain, dit l'historien, est un squelette dans le placard, l'un de ces squelettes qu'on aimerait parfois bien oublier. C'est tout à l'honneur de Jacques Chirac de l'avoir enfin admis dans un célèbre discours de 1995. Sur le site de l'ancien Vélodrome d'hiver, le président de la République avait eu ces mots. « Ces heures noires souillent à jamais notre histoire et sont une injure à notre passé et à nos traditions. Oui, la folie criminelle de l'occupant a été, chacun le sait, secondée par des Français, secondée par l'État français. » Or, si Philippe Pétain ne résume évidemment pas le régime de Vichy à lui tout seul, c'est bien lui qui l'a fondé et c'est bien lui qui a été le chef de cet État français.
Europe 1, 15h, 16h.
Au cœur de l'histoire.
Et pour continuer à parler du maréchal Pétain, le chef de l'État français, c'est le moment d'accueillir votre invité Stéphane Bern. Vous recevez aujourd'hui Jean-Yves Le Naour.
Bonjour Jean-Yves Le Naour, merci d'être avec nous sur Europe 1.
Merci, bonjour Stéphane Bern.
Vous êtes historien spécialiste de la Première Guerre mondiale et du XXe siècle, et l'auteur notamment d'un ouvrage consacré à Pétain publié au PUF. François Mauriac disait au lendemain de la condamnation de Pétain en 1945 « Un procès comme celui-ci n'est jamais clos et ne finira jamais ». Les pétainistes ont-ils aujourd'hui perdu la bataille de l'histoire ?
Oui, incontestablement, mais ils ont mis du temps. Ils ont mis du temps à la perdre parce que pendant une trentaine d'années, si ce n'est plus, il y a deux mythes qui ont eu cours à droite et à gauche. Le mythe du bouclier et de l'épée, vous l'avez rappelé, Pétain était le bouclier pendant que De Gaulle était l'épée et finalement, ils étaient dans le même camp. Ça, c'est le mythe inventé par Pétain en août 44. Et puis, de l'autre côté, il y a le mythe résistentialiste, c'est-à-dire la France, c'est un mythe inventé par De Gaulle, vous savez, le discours de l'hôtel de ville, la vraie France, la seule France, la France éternelle, Paris libéré, etc., par son peuple, par lui-même, c'est-à-dire la France unanimement résistante, à part une poignée de misérables. Ce mythe, qui était nécessaire pour redonner de l'honneur, de la fierté aux Français, qui avaient été battus en 40, qui avaient collaboré, etc., eh bien, il niait Vichy. Il niait la collaboration, il niait Vichy. Donc, ces deux mythes empêchaient les Français de regarder l'histoire en face. Et puis, les querelles se sont... on peut dire que tout s'est achevé avec le discours que vous avez rappelé, le discours de Jacques Chirac, de juillet 95, où on reconnaît la participation de l'État français dans la déportation des Juifs, parce qu'il pouvait y avoir des débats sur... Est-ce que on avait bien fait de signer l'armistice? Est-ce que on avait bien fait ou pas de collaborer? Même si les historiens avaient tranché la question, il pouvait y avoir ces débats. Mais est-ce qu'on a bien fait de déporter des femmes, des enfants, des vieillards? Là, c'était indécent de se poser cette question. Et là, Vichy était définitivement condamné et Pétain pouvait sortir de notre débat politique, mais je pense qu'il reste tout de même là en tant que spectre, fantôme, qu'il continue à planer malgré tout.
Jean-Yves Le Naour, on continue à parler du maréchal Pétain, le chef de l'État français, dans un court instant.
Cette semaine, votre radio préférée réunit la grande famille Europe 1.
Une semaine exceptionnelle.
Tous les jours, tout au long de la journée,
venez rencontrer vos animateurs.
Découvrez comment les journalistes travaillent et préparent l'information libre que vous entendez.
Assistez aux émissions, pénétrez dans les coulisses
et célébrez les succès d'Europe 1.
Entrez dans la grande famille Europe 1.
Pour en savoir plus et découvrir le programme,
rendez-vous sur europe1.fr.
Rubrique Club Europe 1.
Toute la semaine sur Europe 1, découvrez comment Acadomia accompagne les jeunes sportifs pour les aider à concilier réussite sportive et réussite scolaire. Et en attendant, découvrez-en plus sur acadomia.fr.
À tous ceux qui n'aiment pas spécialement se lever le matin, ni aller au travail, ni cuisiner tous les jours, ou se brosser les dents. Bref, à tous ceux qui trouvent que le quotidien, ça n'est pas assez bien pour être cher. Bah oui, je suis désolé, c'est surcoté le quotidien. Intermarché propose jusqu'à 1000 produits du quotidien à prix bas. Ah bah voilà! Comme le paquet de 4 liégeois chocolat pâturage, une marque Intermarché à 1,09€ seulement. Et c'est aussi sur notre appli. Intermarché, tous unis contre la vie chère. 400 grammes, soit 2,73€ le kilo, transformé en France. Modalité sur intermarché.com. Pour votre santé, bougez plus.
Alors comme je vous le disais, madame, avec la rénovation énergétique à 1€, l'État prend tout en charge.
Je sais pas, ça m'embête de décider tout de suite.
Mais alors je comprends, le problème c'est que si vous signez pas maintenant, vous pourrez plus en bénéficier et ça va vous...
Non, n'insistez pas, je préfère un autre avis d'abord.
La réno énergétique à 1€, ça n'existe pas. Les arnaques, si. Avant de dire oui, demandez un autre avis. Contactez votre conseiller France Rénov sur france-rénov.gouv.fr, le service public de la rénovation de l'habitat.
Leclerc, bonjour.
Bonjour. Vous connaissez le proverbe « Quand l'abricot français bien sucré arrive en rayon, on se régale à la maison »
Non.
Normal, je viens de l'inventer, mais c'est vrai.
Ça, je vous crois. Surtout que du 17 au 21 juin, les abricots français sont à 2,79€ le kilo. Et chaque semaine, profitez en plus de 10% de tickets Leclerc sur tous les fruits et légumes à activer sur votre appli Mon Leclerc. Chez Leclerc, le goût du frais, ça se défend tous les jours. Catégorie 1, calibre 45-50mm, modalité et magasin participant sur www.e.leclerc.
Europe 1, 15h-16h,
au cœur de l'histoire.
Au cœur de l'histoire, dernière partie à 15h49 sur Europe 1 avec vous Stéphane Bern. Vous nous racontez le dessin du maréchal Pétain, devenu il y a 85 ans, jour pour jour, le chef de l'État français avec votre invité qui lui redonne vie dans un livre, l'historien Jean-Yves Le Naour.
Jean-Yves Le Naour, quelle place la politique a-t-elle dans la vie du maréchal Pétain avant qu'il prenne la tête du régime de Vichy à l'âge de 84 ans quand même, je le rappelle. Que sait-on de ses positions lors des grandes affaires qui secouent la France? D'abord l'affaire Dreyfus en premier lieu.
Vous allez être surpris, Pétain ne fait pas de politique. Pétain ne fait pas de politique, et je vous rappelle que les militaires sous la Troisième République n'ont pas le droit de vote. Ils n'ont pas le droit de vote parce qu'ils ne doivent pas avoir d'engagement politique, pas de parti pris, ils sont là pour servir la France, la nation, la République, l'État, et donc pas d'engagement. Et pendant l'affaire Dreyfus, il reste silencieux. Alors qu'il attend, il y a tant d'officiers autour de lui. À l'époque, il est capitaine, il est à l'état-major du gouvernement militaire de Paris, donc il est au cœur du réacteur de l'affaire Dreyfus. Il ne dit pas un mot. Si bien qu'il passe pour un Dreyfusard, on ne sait pas s'il l'est vraiment. Hein.
On peut supposer que non.
Ouais, on peut supposer que non. Mais néanmoins, il est silencieux, ce qui fait que quand les radicaux arrivent au pouvoir, dans les gouvernements qui suivent Valdec, Rousseau, Combes, etc., et qu'on veut promouvoir les officiers républicains, eh bien, on lui propose une belle promotion, prendre le poste de commandement de l'école de tir de Chalon-sur-Marne, et il refuse, parce qu'il ne veut pas, justement, dépendre d'une décision politique.
Dans votre livre, vous citez l'académicien Pascal Horry, pour qui Pétain n'a eu d'autre idéologie que lui-même, c'est-à-dire...
Ben, si vous voulez, quand vous essayez de retracer un parcours, une biographie, on est obligé de réfléchir un peu sur la psychologie du personnage. Et c'est pas toujours évident. Et en fait, c'est une personnalité à l'ego blessé, à l'ego surdimensionné, vaniteux, qui aime les honneurs, mais qui en fait qui est extrêmement blessé. Il est frustré.
Pourquoi frustré ? Il a tout eu.
Ben oui, c'est ça qui est étonnant. Il était maréchal, les éloges, oui. Les fleurs, etc. On comprend pas. Mais en fait, il y a d'abord la petite enfance. Vous avez rappelé que sa mère est morte en couche. Il avait un an. Il est resté muet pendant jusqu'à l'âge de 3 ans. Mutique. Ça a été vraiment un trauma. Et son père s'est remarié avec une femme qui a privilégié ses enfants, qu'il n'aimait pas. Il a dû être élevé par des grands-parents, par des oncles, etc. Et il a été privé de cet amour. Et ensuite, quand il est militaire, il a une carrière, bon, comme vous l'avez dit, honorable, mais pas sans éclat. Pas spectaculaire. Alors que lui, il ose contredire les grands. Et c'est pour ça d'ailleurs que sa carrière n'est pas spectaculaire. Il ose contredire des généraux. Et voilà, il estime qu'il est supérieur en intelligence et il n'a pas la carrière qu'il devrait avoir. À Verdun, il estime qu'il a sauvé la situation et c'est Nivelle qui devient le général en chef après Joffre. En 18, il estime qu'il a préparé la victoire et c'est Foch, le grand vainqueur. À chaque fois, il a l'impression de se faire avoir, d'être frustré. Et c'est pourquoi... À Vichy, il y a tout ce culte de la personnalité. Enfin, il va réparer toute cette blessure d'ego. Il est sur les timbres, il est sur les billets, il est son portrait dans les salles de classe, son buste dans les mairies à la place de Marianne. Maréchal, nous voilà à la place de la Marseillaise. Oh, enfin, un peu de baume réparateur sur cette vieille blessure qui l'accompagne toute sa vie. Alors qu'il a eu tous les honneurs, c'est ça qui est... Mais il court après, il a besoin d'être aimé.
Alors, question délicate maintenant. C'est vrai qu'en 1940, alors qu'un véritable culte de la personnalité est organisé autour de la personne du maréchal, dans quelle mesure les Français soutiennent-ils Pétain et sa politique de collaboration avec l'ennemi ?
Alors, il y a deux choses d'abord dans le soutien à Pétain. Il y a le maréchalisme et le pétainisme. C'est pas la même chose. Alors, le maréchalisme, c'est le soutien affectif des Français à Pétain. Et ça... Il a été très fort, même jusqu'à la fin de la guerre, curieusement. Et le pétainisme, c'est l'adhésion aux valeurs de la Révolution nationale. Et là, c'est pas la même chose. Alors, le soutien, vous posez la question du soutien à la politique de collaboration, eh bien, les Français n'ont jamais soutenu la collaboration. Jamais. Les Allemands, ils n'ont jamais été vus comme des amis, ils ont toujours été vus... D'ailleurs, on les appelle pas Allemands, on les appelle Schleu, Bosch, Dorifort, voleurs de patates, Frisé, Fridolin, enfin, c'est la preuve qu'on ne les aime pas trop. Et cette politique de collaboration, finalement, on pense que c'est un piège. Oui, c'est Pétain, là, il est en train de rouler Hitler dans la farine, c'est un leurre. Ou bien alors, il y a l'idée d'un bon Vichy et d'un mauvais Vichy. Pétain, c'est le bon Vichy qui essaye de protéger comme il peut les Français, et puis Laval, c'est lui qui fait la politique de collaboration. Enfin, tout ça est complètement faux, mais ce qui est certain, c'est que les Français n'ont jamais, jamais soutenu, à part effectivement, la poignée d'extrême droite, pour des raisons idéologiques ou par intérêt.
Il y a une chose qui est frappante quand on regarde les images d'archives, c'est qu'on voit en 1944 le maréchal Pétain sur la place de l'Hôtel de Ville, je crois, acclamé.
Oui, c'est en avril, je crois.
En avril. Et quelques semaines plus tard, c'est le général de Gaulle, dans Paris libéré, qui reçoit le même accueil triomphal. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'esprit des Français ?
C'est vrai, ça paraît surprenant. Alors il y avait peut-être plus de monde pour De Gaulle, parce que quand il descend le 25 août les Champs-Élysées, il y a vraiment 1 million de personnes dans la rue. Hein.
Ça veut dire que Pétain en 44 est encore adulé.
Exactement, et le 6 juin, le jour du débarquement, il est à Saint-Étienne, on a les images des actualités, mais il y a une foule pour l'acclamer. Et ça veut dire que les Français ne font pas la distinction finalement entre De Gaulle et Pétain. Et effectivement, les associent, ni avec les alliés, pareil. Hein, ils souhaitent la libération. Vive les Américains, vive les Anglais, vive le débarquement. Et en même temps, ils ne disent pas à bas Pétain. Ils continuent à dire vive Pétain parce qu'ils pensent qu'il les a protégés. Oui, c'est déjà c'est la thèse du bouclier de l'épée qui n'est pas formulée, mais qui est déjà vécue ainsi. Ce n'est qu'après la libération que les yeux vont s'ouvrir en fait sur la réalité de la politique de Vichy. Si vous voulez, quand il y avait des rafles, quand il y avait de la déportation, on disait c'est les Allemands. Alors qu'en réalité, c'était la police française.
En 1945, Pétain est jugé, condamné pour trahison. Qu'est-ce qu'on peut lire alors dans la presse ?
Dans la presse, d'abord, entre août 44 et août 45, les choses ont complètement changé. Hein. Il y a le gouvernement du général de Gaulle, le gouvernement provisoire, et dans la presse de gauche, on est à fond pour une condamnation très ferme, la peine de mort, etc. Parce que il y a eu, évidemment, c'est aussi une guerre civile, la période de Vichy et l'occupation. Donc la guerre civile se prolonge à la libération avec l'épuration. Et puis, dans la presse de droite, au mieux, on dit, ah oui, quel dommage que ce grand homme se soit fourvoyé. Voyez, etc. Mais 75% des Français, selon un sondage en 1945, sont pour une condamnation. Donc on voit bien que l'opinion s'est complètement retournée par rapport à avril 44 ou 44. Les autorités craignaient d'ailleurs qu'il y ait des problèmes au moment du procès. En août, ils avaient ramené beaucoup de policiers autour du tribunal. Il n'y a rien eu, pas un cri séditieux, etc. En fait, comme si l'affaire était déjà réglée, que les Français étaient passés à autre chose. Ils avaient tourné la page.
Et en juillet 1951, lors de la mort de l'ex-maréchal Pétain... sur l'île Dieu, il y a des réactions dans le pays,
Alors il y a quelques messes d'action de grâce un peu partout à la mémoire du maréchal Pétain, et puis il y a deux milliers de personnes qui viennent à l'île Dieu pour participer aux obsèques, et à Paris quelques dizaines, quelques centaines maximum de personnes se réunissent autour du soldat inconnu sous l'Arc de Triomphe qui tombe de substitution, et ils chantent le maréchal nous voilà en tendant le bras à la fasciste devant le soldat inconnu qui ne demandait pas tant. Sans doute. En fait, il y a quand même, dans la presse, on a l'impression d'un soulagement. Parce que ça veut dire que cette page sombre de l'histoire est tournée. Alors qu'en réalité, elle n'est pas tournée. Mais on a l'impression qu'elle est tournée. Et vous avez Pompidou qui va voir De Gaulle ce 23 juillet 51, dès qu'il apprend la mort de Pétain, et qui lui dit « Affaire réglée ». Vous voyez, la page est tournée. Et De Gaulle lui répond « Non, l'affaire n'est pas réglée. C'est un grand drame historique. Et ce grand drame historique se continuera ». Donc il avait une conscience de l'histoire, De Gaulle, même s'il était inventeur de mythes, même s'il il savait qu'il mentait en inventant des mythes, il avait cette conscience de l'histoire.
Merci beaucoup Jean-Yves Le Naour de nous avoir accompagnés cet après-midi au cœur de l'histoire du maréchal Pétain, chef de l'État français. Je rappelle que votre livre Pétain est disponible au PUF.
Et avec vous Stéphane Bern, l'histoire continue demain sur Europe 1.
Demain, je vous raconte deux autres figures bien différentes de la Seconde Guerre mondiale, Hélène de Porte et Marie-Louise de Crussol. Deux femmes dans l'ombre de la défaite de 1940. D'ici là, bon après-midi sur Europe 1.
Et oui, 15h57 sur Europe 1, l'heure de retrouver votre émission. 16h18, on marche sur la tête, présentée par Jean-Marc Morandini, 01 80 20 30 91. Si vous voulez réagir pendant l'émission, bonjour Jean-Marc.
Bonjour Géraldine, bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver exceptionnellement aujourd'hui lundi. J'ai d'abord un scoop, je ne suis pas Cyril Hanouna. Voilà, c'est dit, c'est fait. Et on va se retrouver dans un instant, on va parler de toute l'actualité. On fera une première heure consacrée à l'actualité télé. Il se passe plein de choses. Du côté de la télé, on a appris qu'Anne-Sophie Lapix allait quitter France 2 pour rejoindre M6. On a appris que Laurent Delahousse pourrait être écarté du journal de 20h. On va vous raconter tout ça dans un instant. Restez avec nous et puis à partir de 17h, page spéciale consacrée à la situation en Israël. Merci d'écouter Europe 1. On se retrouve dans un instant.
Un impact à réparer, un pare-brise à remplacer. Avec Carglass, c'est simple, vous choisissez l'heure et le lieu qui vous conviennent le mieux. Et oui, vous pouvez choisir de venir en centre, mais on vient aussi chez vous. Et même sur votre lieu de travail, c'est où vous voulez. Chez Carglass, la solution la plus proche de chez vous, c'est aussi chez vous. Et jusqu'au 20 juin, pour toute intervention pare-brise, Carglass vous offre un aspirateur de voiture développé par Noroto. Alors, prenez vite rendez-vous sur carglass.fr ou appelez-nous gratuitement au 3044.
Carglass répare, Carglass remplace.
Conditions sur carglass.fr.
Cofidis présente. Projet numéro 7, le projet qui reste sur le carreau. Oh non, vous en avez assez des rêves qui se brisent. Avec Cofidis, c'est simple pour financer vos projets. Jusqu'au 30 juin, Cofidis propose un prêt personnel à taux exceptionnel. Et c'est pendant 2 semaines seulement sur Cofidis.fr.
Cofidis.
Le crédit qui fait la différence. Délai légal de rétractation.
Carrefour.
vous me dites, les cerises? Alors, en clafoutis, en tartelettes, en sorbet ou simplement nature? J'adore. Eh bien, je vous réponds que les cerises rouges Origine France sont à 4,99€ le kilo. Alors rendez-vous dès demain et jusqu'à jeudi chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive et sur votre appli Carrefour. Retrouvons tous le goût avec Act for Food. Carrefour, on a tous droit au meilleur. Catégorie 1, détails sur carrefour.fr.
Recruter une personne de plus de 50 ans? Jamais de la vie.
Ah, moi, c'est la meilleure décision que j'ai prise. J'ai recruté Sophie, 55 ans, pour être vendeuse dans mon magasin. Grâce à son expérience, elle donne des conseils très pertinents et elle sait s'adapter aux besoins des clients.
Comptons sur l'expérience des 50 ans.